Au printemps 2021, derrière les portes fermées de la Friche Belle de Mai à Marseille, une exposition a vu le jour. Elle présente uniquement des artistes algériens et algériennes ou issus de la diaspora. Cette exposition s'appelle « En attendant Omar Gatlato » et à cause des mesures sanitaires, elle est fermée au public. Alors à défaut de la voir, nous vous proposons de l'entendre. Ce podcast est signé Lila Leclanche et Soisy Pinault et il a été produit par Manifesto 21 avec le soutien de Triangle Astéride. Épisode 3, héritage et transmission. S'il était possible de visiter l'exposition, après avoir monté les escaliers et poussé la lourde porte de la première salle, vous vous trouveriez nez à nez avec une bibliothèque. Elle est remplie d'objets divers. C'est l'œuvre d'Adel Bentounsi et elle est inspirée d'une histoire bien particulière.
Ma grand-mère, elle avait une bibliothèque et dans cette bibliothèque, il y avait un peu tout. Il y avait des cocottes, il y avait de la vaisselle, il y avait des couvertures, des médicaments, des bougies aussi, des fois par exemple des outils aussi pour des tournevis, des pinces et tout ça. Donc c'était un peu comme la caverne d'Ali Baba en fait. C'était ce qui m'a marqué en fait, c'est qu'il y avait tout ça, il y avait tous ces objets, mais les livres, il y avait que deux livres. Elle avait un livre de Coran et un livre d'interprétation des rêves. C'était les deux livres un peu qu'il y avait. Mais sinon, pour le reste, il y avait aussi des trucs pour la couture. Des fois, par exemple, aussi, quand il y avait l'Aïd ou voilà, un jour de fête, quand il préparait les gâteaux, il les mettait dans des boîtes, il les mettait en dessous aussi de cette bibliothèque pour que les enfants ne volent pas les gâteaux. Donc voilà.
Cette bibliothèque, avec ses couvertures et ses bougies, est un témoin d'une histoire de l'Algérie, de sa colonisation comme de sa décolonisation. Elle met en perspective la société algérienne du temps de la grand-mère d'Adel. Avec cette pièce, l'histoire intime devient collective. D'ailleurs, les spectateurs étaient invités à y déposer leurs objets.
Au fait, je pense que c'est aussi une façon de dire que c'est comme quelque chose qui justifie le fait que ma grand-mère ou voilà sa génération a été privée de ses livres. Ils n'avaient pas le choix, en fait. Ils leur ont offert une bibliothèque, mais vide, en fait. Vide. Donc, du coup, ils étaient obligés de la remplacer par ces objets pour tenir, justement, parce que c'est des choses qui... vitales, c'est... pour voilà, la nourriture, pour la couture, pour les bougies. Là, par exemple, quand il y a des coupures d'électricité, on se précipite directement vers la bibliothèque. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a gardé le nom bibliothèque en français. J'ai assisté, des fois, ma grand-mère elle disait à ma tante, va dans la bibliothèque, ramène le tournevis, ou ramène les allumettes, ou ramène les gâteaux, ils sont en dessous, ou ramène les couvertures pour les invités. C'est une forme de témoignage, c'est une forme de... J'aurais bien aimé lui demander à ma grand-mère qu'est-ce qu'elle a. Mais c'est mon point de vue à moi, c'est une forme de justification, c'est comme s'il réclamait... qu'ils leur ont laissé, comme s'ils étaient mis à l'écart. Et ils devaient survivre à leur façon. Oui, c'est ça, c'est cette transmission, mais qui est faite d'une manière métaphorique. C'est un peu comme interpréter un rêve, comme interpréter, par exemple, les textes coraniques et tout ça. C'est des métaphores, au fait, ce n'est pas dit d'une manière directe. Et moi, je me souviens aussi de ma grand-mère, par exemple, si elle faisait une remarque ou quoi que ce soit, elle ne le disait pas d'une manière directe. Elle disait, par exemple, celui qui est mal élevé, même s'il porte tout l'or du monde, il restera mal élevé. Mais en arabe, c'est autre chose. C'est un peu, elle lançait tout le temps des mots comme ça. Et moi, je pense que la bibliothèque, c'est aussi une forme de revendication. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est un hommage à toutes ces grand-mères qui ont écrit l'histoire, qui ont écrit tous ces livres à leur façon. Malgré qu'ils pouvaient pas, qu'ils savaient pas écrire, qu'ils savaient pas lire et tout ça. Mais la transmission, elle est là.
Cet hommage, c'est l'histoire d'Adèle, ce sont ses souvenirs. Pourtant, cette bibliothèque résonne bien plus largement. C'est l'histoire de colons qui ont laissé derrière eux un meuble, mais pas les livres qui vont avec. C'est l'histoire d'une transmission caduque, mais surtout de la réappropriation de celle-ci.
On a en France encore cette notion du cachet, hein, de notre propre histoire, et je pense que les enfants d'immigrés en font les frais aujourd'hui sur le sol français. D'autre part aussi, leur propre histoire, d'une certaine façon, hein, n'est pas partagée ou très peu partagée, ou est devenue partagée il y a 5-6 ans à l'école, et ça s'émancipe un petit peu aujourd'hui. On a ces discours de diaspora, hein, dans le sens large, qui se démocratisent aujourd'hui. Mais on n'avait pas ça il y a 20 ans. Il y avait Kader Attia et Sinéad Sédira qui ont évoqué ces cicatrices et ces traumatismes, d'accord, ou cette transmission. Mais en dehors d'eux, bon, il y en a quelques-uns aussi, hein, ces discours dans le milieu artistique n'étaient pas révélés. Et aujourd'hui, je vois la jeune génération qui essaye de parler justement de ces traumatismes, cette colonialité aussi qui perdure et qui se transmet encore aujourd'hui.
Alida Bougriette, que vous venez d'entendre, est une artiste performeuse. Pour son installation vidéo Corps de masse, elle a invité des habitants de la ville de Saint-Denis, notamment des familles monoparentales ou des jeunes issus de structures sociales, à participer en chorégraphie à ce qu'elle nomme des gestes de mémoire.
Ce qui ressort aussi dans ce geste, c'est le geste de la mémoire et ce lien qui se crée entre la mère et son enfant, et le père et son fils, entre deux individus qui se rencontrent pour la première fois. C'est quelque chose qui est de l'ordre de cette attention de partager une transmission, quelque part. Et c'est des temps qui sont la base de notre propre construction, d'une certaine façon. C'est une forme de passation, finalement, hein, de transmettre l'idée aussi que le corps dans la notion du collectif est autant important, mais on parle de corps policé, contrôlé, et quand on est dans un processus d'émancipation, on devient un corps qui assume son identité, un corps qui étale aussi ses idées de liberté, de sa propre intégration, et aussi de créer son propre état. Alors état quoi ? État du corps social, mais aussi l'état du monde, l'état de la nation, l'état dans lequel on veut se mettre et se développer finalement. Alors moi, j'étais pratiquement une des seules ou deux dans les années 2000 à être issue de l'immigration, et non pas natale, hein, pays venant de l'Algérie. Hein. On était très peu. On était très très peu déjà dans les années 2000. On était sous-représentés et encore aujourd'hui sous-représentés en France. Hein, il faut être clair. Hein. Et notamment la femme. Alors là, c'est encore, je pense, un autre débat. Et alors, une femme issue de l'immigration, et en plus venant d'une famille d'ouvriers aux Beaux-Arts, je vais vous dire, c'est vraiment, voilà, là on tombe vraiment dans, je veux dire, la grande distance, hein. Moi c'était un autre monde, hein.
Nous avons rencontré Nasser Bouzid, un autre artiste de l'exposition. De lui, il raconte qu'il fait l'économie du peu dans sa pratique, mais pas seulement. Quand on lui demande de se présenter, il dit d'abord qu'il est né en Afrique dans les années 60.
J'ai toujours du mal de me présenter. Puis ça vient aussi d'un condensé de plein de paramètres qui sont aussi bien esthético-idéologiques, si on peut dire, que culturels. Moi, j'ai une éducation de... Maintenant, avec l'âge, je le dis, mais... d'une partie de l'Algérie où les gens sont des montagnards très rigoureux, on ne dit pas trop, on est dans la discrétion. Donc il y a un mix comme ça, paradoxal, parce qu'on n'est pas qu'une chose une fois de plus. Issu de l'immigration, et surtout issu de la classe ouvrière, ça c'est très important pour moi. Ici, vraiment de la classe ouvrière, dans ce qu'elle a de noble et de idéologiquement important, quoi, parce que c'est là où je me suis structuré, politiquement, esthétiquement. Donc c'est important de le dire par rapport à notre époque, ça, en tant qu'artiste, parce que c'était où la dimension politique était très présente, très très présente. Puis il y a une autre dimension qui est importante, c'est que j'enseigne et je partage, je suis un passionné de pédagogie. Des fois, je me demande si c'est pas plus important que l'œuvre que je fais, quoi. Je trouve qu'il y a une dimension magnifique là-dedans de pouvoir transmettre, de pouvoir dans une générosité. Voilà quoi, ça c'est une chose, je ne sépare pas les deux. Et mon travail a toujours nourri ma pédagogie.
Nasser Abouzid enseigne le dessin contemporain aux arts décoratifs de Paris. Et cette volonté de transmettre, il la partage avec Alida Bougriette.
Moi, j'ai un public de banlieusards où j'essaye de transmettre la culture et de développer un sens artistique. Hein. Ben, je vais vous dire une chose, ils me donnent de l'énergie. Ce sont des jeunes qui sont flamboyants d'idées. Ils sont dans la musique, dans la chorégraphie, dans la danse, dans le slam, ils sont dans le dessin, ils sont dans le numérique à tout va. Ils communiquent d'une façon extrêmement intelligente. Par contre, l'éducation a fait que ces jeunes, alors que nous, on était dans l'envie de faire des hautes études, surtout dans les années 80-90, sont limités aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à l'éducation. Et c'est ça le grand échec, en fait, aujourd'hui, pour une partie de la société, de la minorité des enfants issus de l'immigration. Alors maintenant, que ce soit pédagogique et qu'on ouvre ces frontières à des jeunes, au lycée, au collège, voire peut-être les beaux-arts aussi, pour leur remettre l'idée qu'à un moment donné, la société n'est pas uniquement élitiste, qu'on a d'autres formes de discours, qu'il faut absolument se battre encore aujourd'hui, que la jeune génération, il faut la laisser s'exprimer aussi, que la vieille école est intéressante sur différents points, mais qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose et revendiquer aussi une nouvelle esthétique, des nouvelles narrations, et qu'on est autant légitime que les autres, et qu'il faut aussi être dans une histoire d'universalité, que ce ne soit pas uniquement focalisé ou limité sur des frontières, que le discours peut être aussi effectivement algérien ou sur le territoire français, mais qui peut être aussi ouvert sur le côté universel. Parce que l'autre est universel dans toute sa splendeur.
Louisa Babary est une artiste russe et algérienne qui vit en France. Dans l'exposition, elle présente Lecture, une pièce sonore. Elle l'enregistre avec sa fille de 6 ans, qui apprenait alors à lire à l'école.
Lecture, c'est également un titre qui a un double sens, parce que lecture en anglais, ça veut dire discours. Et c'est une notion assez récurrente dans mon travail, de travailler sur le discours. Alors le discours, ça peut être un discours académique, un texte de production critique, mais également un poème. Et donc la pièce Lecture, c'est une pièce que j'ai enregistrée avec un texte de Jacques Vergès, qui s'appelle « Pour Djamila Bouyred d'Alger ». 14-15 juillet 1957, car Jacques Vergès était l'un des avocats des Algériens qui se battaient pour l'indépendance, et notamment de Djamila Bouyred, qui était donc une jeune Algérienne engagée aux côtés du FLN dans la guerre de libération. Donc ce texte, c'est un texte qui fait partie d'une plaidoirie, et qui est un texte comme un compte-rendu, si vous voulez, de faits, qui est un texte très factuel, sur un événement qui se passe pendant la guerre d'Algérie, avec la participation de Djamila Bouyred à une action contre la force d'occupation coloniale.
En lisant, la fille de Louisa Babary déchiffre le texte. Elle bute sur les mots attentat, parachutiste ou sur le sigle du FLN. On s'est demandé s'il y avait une volonté de transmission, là aussi.
Disons que elle avait pas l'âge pour que je puisse lui transmettre le texte tel que je l'entendais. Voilà. Et je voulais vraiment lui conférer un espace qui est le sien. Je ne l'ai pas fait dans un esprit de transmission. En revanche, la lecture, c'est pas quelque chose d'anodin. Donc, évidemment, l'enfant, il s'imprègne. Il y a des mots qui résonnent, il y a des phrases qui sont dures et l'enfant n'est pas imperméable à tout un vocabulaire. L'enfant, finalement, invente une langue qui est la sienne, qui est faite de silence, qui est faite d'erreurs, qui est faite de va-et-vient, qui est faite d'inventions. parce que ce qui me plaisait aussi, c'est qu'elle réinvente certains mots, puisqu'elle les prononce pas correctement. Alors certains, il y a des syllabes qui sont laissées, qui sont en repos, d'autres qui sont appuyées. Donc oui, elle invente une langue finalement dans cette lecture-là. Elle nous donne à voir une langue qu'elle maîtrise de son point de vue. Voilà. Et c'est le point de vue d'un enfant. Et on peut aussi faire le lien et dire que finalement, toute cette série d'événements, toute cette retranscription, cette description de la guerre dans un texte qui fait partie d'une plaidoirie, on peut transposer ça comme si c'était le point de vue d'un enfant sur la guerre. Bien que ça ne l'est pas, ce n'est qu'une lecture. Mais ça nous donne à voir la guerre d'un autre point de vue.
Tous furent interrogés sur l'adresse de leur frère, oncle, chef ou ami. Tout l'ignorait sauf Jamia. Les parachutistes la pressaient de parler puisqu'elle connaissait l'adresse de Yassef. Elle ne parla pas.
La pièce lecture dont vous venez d'entendre un extrait est à découvrir sur le site de Triangle Astéride dans l'exposition virtuelle En attendant Omar Gatlato. Dans le prochain épisode, la parole sera à nouveau donnée aux artistes et nous vous parlerons de mythologie. Merci à Adèle Bentounsi, à Alida Bougriette, à Nasser Bouzid et à Louisa Babari. Merci à Belle Enfant pour les pauses musicales qui ont rythmé cet épisode et merci à Habibi Feng pour la musique que vous entendez au générique. Elle a été composée par Merzak Alouache pour le film Omar Gatlato. Surtout, merci à vous de nous avoir écoutés.